France Inter, franceinter.com.
Je ne doute pas que dans 100 ans, on en vienne à arranger la vie de façon telle qu'un automate puisse en remplir les fonctions. Théophile Gautier, 1830. Ans d'histoire. Depuis les peintures pariétales de Lascaux ou de la grotte Chauvet jusqu'aux robots industriels d'aujourd'hui, les hommes ont toujours cherché à reproduire la vie. Fabriquer des créatures animées à partir de la matière inerte, c'est un des plus vieux rêves de l'humanité, celui des inventeurs d'automates au siècle des Lumières et des cerveaux électroniques d'aujourd'hui, celui du docteur Frankenstein, de Mary Shelley, ou des réalisateurs de la Guerre des Étoiles et de Terminator. Mais c'était aussi le rêve des Grecs de l'Antiquité, dont la mythologie a imaginé les premiers robots de l'histoire. Galatée, cette statue d'ivoire sculptée par Pygmalion, à laquelle Aphrodite avait donné la vie, ou encore ces robots de métal que le dieu des forgerons, Héphaïstos, avait fabriqués dans son atelier au fond d'un volcan.
Héphaïstos fera de son mieux. Le fer et les reins n'auront jamais l'air d'un plumage. Mais il est très habile et très ingénieux. Vu la colère de Zeus éclater et l'Olympe en être ébranlé.
Regardez!
Ils volent droit vers nous.
Par les dieux, une chouette. Une chouette en or.
Elle s'appelle Boubo.
Tu comprends tous ces cliquetis, ces halètements.
Pour moi, c'est limpide.
Encore un don que te font les dieux.
Jean-Claude Audin, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier chez Odile Jacob un livre, Les créatures artificielles, dans lequel vous rappelez, entre autres, toutes les créatures qu'avait créées Héphaïstos dans la mythologie grecque. Il y avait une chouette, on l'a entendu. Il y avait aussi des servantes en or, un chien en or, c'est assez extraordinaire. Alors, c'est dire que l'histoire des créatures artificielles ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte même, dites-vous, à la préhistoire avec les animaux peints sur les grottes de Lascaux. Est-ce qu'on peut dire, comme vous le faites, que ces peintures des grottes de Lascaux, c'était déjà des créatures artificielles ?
Alors, d'une certaine manière, c'est une interprétation personnelle, bien sûr. Je ne pense pas qu'il ait fallu attendre la mythologie grecque pour commencer à croire que les hommes ont imaginé reproduire la vie. Et de ce fait, effectivement, je remonte quasiment à l'aube de l'humanité. Et c'est pour moi la manière de montrer que finalement, probablement, cette quête des créatures artificielles tire son fondement de questions assez fondamentales que se pose l'humanité depuis qu'elle existe. C'est-à-dire, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et je prends effectivement comme exemple quasiment le premier homme. Donc, bien sûr, c'est une métaphore qui se regarde pour la première fois dans une flaque d'eau et qui, effectivement, se rend compte qu'il est différent des animaux qui l'entourent et qui, donc, va commencer à se poser un certain nombre de questions. Donc, bien sûr, c'est imaginé, mais à partir de ce moment-là, on peut bien sûr en déduire que les fresques dans les grottes pariétales ou les statuettes sont des premières, on peut les interpréter comme telles, des premières tentatives de reproduction du vivant, alors sous une forme encore très fruste, mais déjà on va y déceler ce qu'on va retrouver ensuite dans l'histoire des créatures artificielles, c'est-à-dire une technique, la volonté de reproduire le mouvement. Donc donc dans les fresques de Lascaux, par exemple, c'est tirer parti de la lumière ambiante avec les torches et tirer parti aussi du relief de la grotte.
Bref, avoir au fond le pouvoir des dieux. D'ailleurs, les dieux de la mythologie grecque, qu'il s'agisse de Zeus par exemple, ou même d'ailleurs celui de la Bible qui dit « Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, sous terre ou dans les eaux », c'est vraiment effectivement quelque chose c'est un pouvoir divin que l'on veut se donner, d'où d'ailleurs la colère des dieux et par exemple la vengeance de Zeus sur Prométhée.
Oui, on va retrouver ces ingrédients, si je puis dire, dans toute l'histoire des créatures artificielles occidentales. Parce qu'il faut bien préciser que, particulièrement au Japon, ce n'est pas tout à fait la même position. Mais effectivement, on va avoir une technique. On parlait des techniques picturales dans le cas des fresques. On va parler ensuite de la sculpture, par exemple, pour les Grecs. Eh bien, il faut une matière inerte et il faut un art ou une technique qui va permettre de sculpter le vivant d'une certaine manière. Mais en aucun cas, dans cette culture occidentale, l'homme a la capacité de donner la vie. Et c'est forcément une intervention divine. Généralement, les dieux n'aiment pas cette incursion dans leur territoire. Et à partir de ce moment-là, et effectivement, comme vous le notiez aussi bien dans la Bible que dans beaucoup de textes religieux différents, il va y avoir des interdits, et ce qui va se traduire dans les mythes et légendes par des punitions, des révoltes, des... En fait, ça finit généralement relativement mal.
Prométhée attaché à un rocher où les aigles viennent dévorer son foie. Pourquoi ? Parce qu'il avait dérobé le feu du ciel. Pourquoi ? C'était pour animer justement une sculpture qu'il avait faite avec de la glaise. En tout cas, les Grecs, ça ne les empêche pas de faire des statues, et même, parce qu'elles sont inanimées au début, mais même aussi de s'intéresser aux premiers automates de l'histoire, en leur donnant même des formes humaines, ce qu'on appelle les androïdes. D'ailleurs, le mot automate vient du grec. Ça veut dire quoi d'ailleurs, Jean-Claude Dedain ?
Automate, en fait, qu'est-ce que ça signifie ? C'est donner l'autonomie, c'est-à-dire la capacité. Et on s'approche à partir de ce moment-là du vivant. C'est en fait se mouvoir de soi-même, d'une certaine manière. Donc, alors que dans les premières tentatives, le mouvement était simplement, la marque du vivant, pour les premiers, en première approche. Très rapidement, et en particulier les Grecs, se pose le problème de se mouvoir par soi-même, d'où le terme automate.
Alors, ce sont des fabrications justement d'êtres vivants qui ressemblent à des humains et qui sont associées à une industrie qui jusqu'au Moyen-Âge et même au-delà a été véritablement l'industrie de pointe, un peu comme l'informatique aujourd'hui, et qui était l'horlogerie. Ces automates sont associés à des horloges, c'est le cas au Moyen-Âge de ce qu'on appelait les jacquemarts, Jean-Claude Dedain.
Oui, alors ce qui est clair, c'est que les créatures artificielles, pendant toute leur histoire, vont être les témoins d'une certaine manière de la modernité, de la haute technologie, comme vous venez de dire, à un moment donné. Et pendant des siècles, la haute technologie, ça ne va pas être l'électronique ou l'informatique telle qu'elle est aujourd'hui, ça va être la mécanique. Alors au départ, c'est plus l'hydraulique, d'une certaine manière, et qui est finalement plus proche du vivant, d'une certaine manière. Et puis progressivement, la mécanique va progresser, et les Grecs y jouent une part très importante, et avec une technologie de pointe qui va trouver son apogée un petit peu plus tard, qui est effectivement la technologie horlogère, où on va trouver des merveilles d'horloges et puis ensuite des automates.
Les jacquemarts, hein, qui étaient des petites reproductions, des petites statuettes qui frappaient avec un marteau sur la cloche justement d'une horloge. Alors tout ça a été fabriqué par des horlogers, et l'horlogerie a une patrie, c'est bien connu, c'est la Suisse, où une famille d'horlogers justement imaginait un jour des androïdes capables de faire autre chose que de sonner l'heure.
Je me nomme Pierre Jacques Edrose, pendulier de mon état. Certains dirent que je fus le premier mécanicien de Suisse et même l'un des plus grands horlogers de mon temps. La petite famille d'androïdes que je me constituais en l'espace de 3 ans fut certainement à l'origine de cette réputation. Tout commença en 1770 par la naissance de Charles le Petit Écrivain. Un an plus tard, naquit Henri le Petit Dessinateur. Outre le portrait de Louis XV, Henri s'est exécuté les portraits de Louis XVI et de Marie-Antoinette. En 1773, naquit enfin la musicienne, que nous nommèrent Marianne. Charmante organiste, elle aimait se produire dans les salons les plus cossus et fut certainement notre plus belle création.
Et Et oui, les trois automates de la famille Jacques et de Rose, le père Pierre et son fils Henri, bien, il y avait un petit écrivain, un dessinateur et une musicienne qu'on entend. C'était vraiment une révolution, Jean-Claude Audin, au XVIIIe siècle. C'était d'ailleurs une attraction qui avait un succès fou.
Ce sont des attractions, mais aussi ce sont le summum de la technologie à cette époque. Les grands techniciens sont des biomécaniciens, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux ont une formation d'horloger extrêmement pointue, mais en plus, certains d'entre eux ont une formation de médecine, c'est-à-dire pour être capable effectivement de reproduire certaines fonctions du vivant sous une forme mécanique. Il faut rappeler qu'on est en pleine avancée de la pensée mécaniste, matérialiste, avec effectivement, et en quelque sorte, ces grands biomécaniciens, donc on a cité les frères Jacques et de Rose, mais auparavant, il y a bien sûr Jacques de Vaucanson en France, qui va en fait être précurseur sur ce type d'androïde. Lui aussi, il va faire des automates musiciens.
Il invente même un canard qui digérait.
Mais surtout son canard, effectivement. Mais Jacques de Vaucanson, à chaque fois, il a un but, effectivement, parce qu'il est à un certain moment de sa vie assez désargenté, donc il veut en faire des attractions pour redorer un petit peu son blason. Mais également, pour lui, c'est une démonstration quasiment pédagogique pour le grand public de la pensée mécaniste. Et il va essayer de démontrer par ces automates que certaines fonctions du vivant, et il va prendre certains organes, dans le cas du canard, c'est la digestion, dans le cas d'un joueur de flûte, ça va être plutôt les poumons et la respiration, peuvent être reproduits sous une forme mécanique.
Alors il y a aussi parmi ces scientifiques, il y a des escrocs. Hein. Vous citez par exemple un Allemand, Wolfgang von Kempelen, qui avait inventé un joueur d'échecs. Mais alors, c'était une mystification.
Kempelen n'est pas ce qu'on peut appeler complètement un escroc. C'est-à-dire, en marge de cette histoire qui est restée célèbre, il a réalisé également des machines qui permettaient les premières machines de synthèse vocale pour reproduire la voix humaine. Et donc, c'était, de ce point de vue-là, au même titre que Vaucanson, les Jacques et de Rose, un grand mécanicien, de ce point de vue-là. Et il étudiait, bien sûr, encore une fois, des fonctions relativement complexes du vivant. Mais effectivement, il est surtout connu pour le fameux joueur de Kempelen, qui est, on appelait ça le grand turc de fer, et qui dissimulait, en fait, un homme de petite taille dans la mécanique. Et lors d'une partie contre la grande Catherine de Russie, qui a compris en quelque sorte qu'il y a une mystification. Donc cette partie restée célèbre où finalement elle force quasiment le joueur d'échecs artificiel à le faire sortir un peu de ses gonds pour démontrer d'une certaine manière la supercherie.
Et oui, parce que aussi perfectionnés soient-ils, les automates ne pensent pas. Mais quand la science est impuissante, eh bien c'est la science-fiction qui prend le relais avec des créatures artificielles imaginaires, dont la plus célèbre a été imaginée par la romancière britannique Mary Shelley et son médecin, son héros de médecin, un médecin qui avait rassemblé des morceaux de cadavres de humains auxquels il ne manquait plus que la foudre pour donner la vie à la plus terrifiante des créatures artificielles.
Les organes assemblés doivent bénéficier d'éléments nutritifs adéquats et de chaleur. Mais ce qui est indispensable, c'est une énergie directe plus importante. La chose est en vie! Qu'est-ce que j'ai fait? Victor Frankenstein de Genève. Savez-vous quelle force vous avez déchaînée? De quoi est fait cet assemblage? De fragments de voleurs? De morceaux d'assassins? Le mal rapiécé au mal, rapiécé au mal. Croyez-vous vraiment que cette chose va vous remercier pour sa monstrueuse naissance? Le mal aura sa revanche. Que Dieu protège ceux que vous aimez.
Alors Frankenstein, vous dites que Mary Shelley avec Frankenstein était l'inventeur de la science-fiction. Mais c'est un personnage où l'on retrouve vraiment tous les grands mythes, au fond, les trois règles du mythe de la créature artificielle, et ça depuis Prométhée. D'abord, elle est créée par l'homme à partir de matière inanimée. En l'occurrence, ce sont des morceaux de cadavres.
Oui, exactement. Et c'est ces capacités de médecin et de connaissance de la médecine qui vont permettre au docteur Frankenstein de réaliser l'assemblage, si je puis dire. Mais de toute façon, la vie n'interviendra que par une puissance surnaturelle. Alors, elle est imaginée, par exemple, dans le film de l'époque où Boris Karloff est inanimé, des éclairs gigantesques qui vont apporter finalement l'étincelle surnaturelle qui va permettre...
Ça, c'est la deuxième règle, hein, c'est l'étincelle divine, oui. La foudre.
Et la troisième, c'est qu'effectivement, on enfreint un petit peu le territoire divin, et à partir de ce moment-là, la créature va échapper à son créateur et se retourner contre lui. Et donc, il y a forcément dans ces cas-là une espèce de punition pour le pauvre créateur, voire, quand on le verra plus tard, puisque cette tradition, quasi scénaristique, s'est poursuivie même dans les films modernes ou les romans modernes, par une difficulté avec l'humanité. Les créatures sont là pour nous, finalement, nous remplacer, ça ira jusque-là.
Pas toujours, hein, parce qu'au même 19e siècle, on invente un héros, une autre créature imaginaire, une créature artificielle, qui est Pinocchio. Lui, il ne se retourne pas contre son maître.
Alors, il ne se retourne pas contre son maître. Mais comparé à Frankenstein, on est effectivement... Il y a toujours cette quête de l'humanité. On retrouve un certain nombre d'autres constantes. Frankenstein, entre les lignes, il n'est pas si mauvais que ça. Il fait face à son destin, mais il est son principal moteur, lui, c'est cette quête d'humanité. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve d'une certaine manière dans l'histoire de Pinocchio, où il va passer son temps, il sera récompensé à la fin, de devenir un véritable petit garçon.
Alors, à ce moment-là, j'ai employé beaucoup le mot depuis le début, le mot de robot. En fait, le mot de robot, Pinocchio ou Frankenstein, ou même les automates du XVIIIe siècle, ce ne sont pas encore des robots. J'ai appris en vous lisant, Jean-Claude Dedin, que le mot n'a été inventé qu'assez tard et par un tchèque.
Oui, c'est Karel Čapek qui, lors d'une pièce, cherche un nom pour qualifier ces espèces de créatures... en fer blanc qui ont été créés à partir d'une matière inventée par le professeur Nimbus de l'histoire. Et donc il trouve le mot robota, donc, qui en tchèque veut dire travailleur, d'une certaine manière. Et donc il va nommer ces créatures des robots à partir de là. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'on utilise ce terme. Et il aura le succès qu'on connaît par la suite.
Il va même inventer la révolte des machines, comme celle d'ailleurs de ce super ordinateur qui avait compromis une célèbre expédition sur Jupiter, imaginée par Stanley Kubrick dans 2001, Odyssée de l'espace.
Bonsoir. Il y a 3 semaines, un vaisseau spatial américain, Explorateur 1, a commencé son long périple en direction de Jupiter.
L'équipage d'Explorateur 1 est constitué par 5 hommes et un exemplaire de la dernière génération de superordinateur CARL 500. Elle représente la quintessence de l'intelligence cybernétique. Le cerveau analytique de recherche et de liaison 500 est un ordinateur capable de reproduire, certains savants préfèrent le mot imiter, la plupart des opérations du cerveau humain. Nous avons bavardé avec le cerveau analytique de recherche et de liaison, que l'on appelle par le sigle ou le prénom de Karl. Bonjour Karl. Comment ça va à bord ?
Bonjour, monsieur Hammer. Tout est parfaitement en ordre.
Vous est-il jamais arrivé de douter de vos capacités ?
Permettez-moi de vous répondre en d'autres termes. La série de superordinateurs Karl est la plus perfectionnée que l'on connaisse.
Karl, malgré votre immense capacité de raisonnement, éprouvez-vous un complexe du fait que vous dépendez des hommes pour mener à bien vos instructions ?
Pas le moins du monde. Je suis heureux de collaborer avec l'homme.
C'était un extrait de 2001, Odyssée de l'espace, avec Karl, en réalité, qui s'appelait Hal, hein, dans la version du film de Kubrick. Je crois que ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, s'il s'appelait Hal.
Oui, Hal, H-A-L, en fait, c'est un acronyme qui rappelle, en fait, la, IBM, puisqu'on prend à chaque fois la lettre
qui suit,
qui précède en fait, et on obtient effectivement le sigle IBM.
Alors ça, c'était un, on n'est plus dans les androïdes, on est dans les ordinateurs, mais ce qu'on appelait autrefois des cerveaux mécaniques, dont les premiers étaient inventés bien plus tôt, bien avant le film de Kubrick, bien avant 2001, c'était des machines à calculer, comme la machine de Pascal, la Pascaline, qui a été, dit-on parfois, le premier ordinateur.
Alors elle n'est pas tout à fait la première machine. Il y a un Allemand, William Schickard, qui a effectivement inventé, a priori, la première machine cette fois. Il y en a peut-être d'autres, mais on n'a plus de traces aujourd'hui. Et le pauvre William Schickard, on connaît uniquement sa machine par une lettre qu'il a envoyée, qui décrit sa découverte, puisqu'il a été ensuite victime d'une agression. Probablement, on raconte qu'elle est due en fait à son... effectivement à sa volonté. On est dans une période très troublée et effectivement à cette époque-là la religion est encore relativement peu ne tolère relativement peu ce genre d'incursion je dirais dans les territoires divins, encore une fois, et donc sa maison va être brûlée et la machine va disparaître.
Alors ce sont des calculatrices, on en voit d'ailleurs la reproduction dans votre livre, c'est assez étonnant, hein, c'est très complexe, en fait ça fonctionnait pas forcément très bien, mais enfin ça sert à calculer, ce sont, comme on disait, des cerveaux mécaniques. On passe ensuite à l'étape des machines universelles. Qu'est-ce qui les distingue justement de ces machines à calculer de Pascal par exemple ?
Les premières machines à calculer comme la Pascaline sont essentiellement des machines utilitaires qui servent à automatiser les tâches de calcul, et en particulier les tâches de comptabilité. Donc ça, c'est quelque chose de primordial. Il y a une utilité forte. L'utilité forte, on parlait tout à l'heure des automates, c'était l'horlogerie, c'était mesurer le temps. Et là, avec les machines à calculer, on essaye d'aider, j'irais, tout à chacun, parce que tout le monde n'a pas forcément les capacités et l'enseignement qui permettent de calculer, de faciliter cette tâche ô combien fastidieuse qu'est le calcul. Mais au-delà de ça, les grands penseurs comme Pascal ont bien sûr une idée derrière la tête. On est en pleine période, encore une fois, du matérialisme. Et je ne doute pas qu'ils essayent, et ça transpire un petit peu dans certains textes et certains propos de l'époque, qu'ils essayaient finalement de reproduire une capacité humaine de l'époque, comme Vaucanson essayait de reproduire la digestion, eux essayaient de reproduire une capacité intellectuelle qu'était le calcul.
Alors, il y a eu, donc, après les machines universelles, qu'est-ce qui les distingue de ces machines à calculer ?
Une machine à calculer, en gros, elle est capable de faire des additions, des soustractions, voire pour les plus sophistiqués de l'époque de Pascal et un petit peu après, des multiplications et divisions. Donc, elles sont cantonnées au calcul. Alors, la machine universelle, il y a des tentatives. La machine universelle, finalement, c'est l'ordinateur. C'est une machine pour laquelle, si on lui donne la bonne séquence d'opérations à effectuer, elle est potentiellement capable de réaliser n'importe quel calcul, n'importe quel traitement, de simuler, d'une manière générale, n'importe quelle autre machine.
Et même de dépasser l'homme, parce que vous, avec l'étape de l'intelligence aussi artificielle, vous évoquez le cas de cet ordinateur Deep Blue qui avait battu Kasparov aux échecs.
Alors on pourrait dire que c'est la revanche de Kempelen, puisqu'effectivement Deep Blue a battu, lors d'une partie maintenant restée célèbre, le champion du monde en titre de l'époque. Alors bon... Le battre ou ne pas le battre, au bout du compte, c'est pas ça qui est vraiment important. C'est effectivement un événement qui a marqué les esprits et qui a été médiatisé comme ça y est, finalement, l'ordinateur est devenu plus intelligent que l'homme, ce que je ne crois pas fondamentalement. Hein. Il y a une pensée humaine et puis on pourrait dire qu'il y a une pensée machinique. Il y a une manière des machines qui est radicalement quand même différente de ce que peut faire l'homme.
Et qui ne servent pas seulement à jouer aux échecs ou à distraire les amateurs d'automates. Elles ont une finalité, celle de fournir aux hommes des machines, des robots industriels ou même des robots domestiques, hein, pour les aider dans leur travail ou pour meubler leur solitude, comme cette invention de Sony il y a 10 ans, France Inter Yves de Caen, le 15 février 2000.
C'est nouveau, ça vient de sortir, un chien qui ne perd pas ses poils sur la moquette et qu'on n'a plus besoin de sortir pour ses besoins. C'est un chien de métal, un robot qui répond au doux nom d'Aibo, un robot nouvelle génération fabriqué chez Sony et qu'on va pouvoir se procurer dès aujourd'hui sur Internet.
Il me fallait une présence dans la maison, il me fallait une présence. Il y a quelque chose qui vit dans la maison, si vous voulez, ça bouge, ça bouge. Aïbo ! Il connaît ses petits coins, il sait où il va pouvoir peut-être jouer. Aïbo ! Mais quand je lui dis « no », comme ça, il comprend.
Parce que lui parle anglais, vous français.
Eh ben oui. Danse, let's dance. Quand la première fois il m'a fait une danse, j'étais enchantée.
Please touch the following colors on my back sensor.
Alors Ibo, on va aller promener un petit peu. On va aller voir les canards.
On va aller promener un petit peu.
Please touch the following colors on my back sensor.
C'est extraordinaire, hein, c'est la première fois qu'on converse tous les deux, hein.
Il y a tout dans les créatures artificielles. Vous parlez d'ailleurs d'Aïbo dans votre livre, Jean-Claude Audin. Vous parlez surtout plus sérieusement de l'importance, par exemple, qu'ont eu ces créatures artificielles pour aider l'industrie naissante, les machines textiles, le métier jacquard. D'ailleurs, cette fois-ci, ce n'est pas les machines qui se révoltaient contre les hommes, mais les hommes contre les machines, avec le cas du métier jacquard au 19e siècle.
Oui, exactement. Bah, c'est toujours un petit peu la même histoire de cette fascination qu'ont les hommes depuis l'aube de l'humanité et aussi de cette peur qui est quasiment culturelle en Occident et qui va prendre des formes avec le développement des machines et des robots de façon contemporaine, avec une espèce de peur de la technologie, parce que ça va effectivement poser des angoisses, non plus seulement à terme de révolte, mais où on perd son emploi, ça va prendre mon travail, ou une remise en question finalement de l'humanité qui va poser un certain nombre de questions. Donc effectivement, le métier jacquard est un condensé de technologie, si je puis dire, puisqu'on va y retrouver en particulier, puisqu'il a comme origine ce qu'avait fait Jacques de Vaucanson dans ses automates, les principes des grands automates.
Qu'est-ce qui, parce qu'on a évoqué les progrès considérables faits dans ce domaine des créatures artificielles, qu'est-ce qui distingue aussi, qu'est-ce qui sépare encore l'homme de sa créature artificielle, des robots notamment ?
Ah bah je dirais que tout les sépare, on n'est absolument pas... j'oserais dire comparable, heureusement. Et effectivement, c'est toujours la grande difficulté. C'est quand on parle de créatures artificielles, eh bien, on a toujours l'impression que c'est subi comme une remise en cause de l'humanité. Et c'est ce qui nous fait peur, hein, d'une certaine manière. C'est ce qui nous pose question. Et on a toujours l'impression que finalement, ça va nous dépasser et un jour se révolter. Or, ce n'est absolument pas le cas. Ça a des fonctions et on n'est pas dans ce contexte, et de moins en moins, je pense, dans l'avenir.
Merci Jean-Claude Audin. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Les créatures artificielles, publié aux éditions Odile Jacob. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le choc des titans de Desmond Davis, disponible en DVD chez Warner Home Video, Les androïdes, Jacques et Rose de Philippe Sayous, édité par Thalia Film, Frankenstein de Kenneth Branagh en DVD chez Columbia TriStar, 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, édité par Warner Home Video, ainsi qu'un extrait d'un reportage d'Alain Lefkowicz, diffusé dans l'émission Les Pieds sur Terre de France Culture en juin 2004. Enfin, je recommande le site de Philippe Sayous, www.automate-ancien.com, qui rend hommage aux horlogers mécaniciens des 18e et 19e siècles et sur lequel vous pouvez voir d'ailleurs les androïdes de Jacques et de Rose dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Antoine Viossa et Loïc Frapsos, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et Élise Médétournion. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, on en parle beaucoup, mais on les connaît mal, les FARC.